Méfie-toi des pièges de ce que j'appelle le féminisme light. C'est l'idée selon laquelle il y aurait des conditions à l'égalité entre hommes et femmes. Refuse cela en bloc, je t'en prie. C'est une idée vaine, lénifiante et vouée à l'échec. Être féministe, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu crois à l'égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes, ou tu n'y crois pas. Le féminisme light a recours à des analogies ineptes, comme « il est la tête et tu es le cou », ou encore « c'est lui qui conduit, mais c'est toi qui es assise à l'avant ». Plus grave encore, dans le féminisme light, il y a l'idée que les hommes sont naturellement supérieurs, mais qu'on doit attendre d'eux qu'ils traitent bien les femmes. Non. Trois fois non. Le bien-être des femmes ne doit jamais dépendre de la bienveillance des hommes.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
Alors c'est « Cher Idiwele » de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une auteure que j'adore, nigériane. Une de ses amies d'enfance, en fait, lui avait demandé des conseils pour donner à son bébé premier-né, sa petite fille, une éducation féministe. Et elle a commencé à lui écrire une lettre et c'est devenu un manifeste, en fait, pour une éducation féministe. Et c'est un texte savoureux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Musique et art plastique sont au programme ce lundi. Nous sommes allés à Avignon à la rencontre d'Ernest Pignon-Ernest qui évoquera avec nous, par la visite de son exposition Ecce Homo, Voici l'homme, ses 50 ans d'engagement artistique, poétique et intellectuel. Alors 50 ans de carrière, vous n'y êtes pas encore, oh, Jeanne Chéral, mais vos 40 printemps vous ont inspiré votre nouvel album, L'An 40, qui sortira le 20 septembre prochain, un album dans lequel se dessine, avec l'extrême sensibilité qui vous caractérise, un autoportrait tout en nuances, libre et rigoureux, intime et pudique, d'une femme, vous, qui entre avec le sourire dans l'An 40.
France Inter. Duh. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Jeanne Chéral, pourquoi vous avez choisi d'entrer avec nous dans ce texte de Chimamanda Ngozi ?
Bah, parce que je l'adore. Je trouve que c'est hyper important. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes, de femmes de 18, 19, 20 ans qui se sentent très, très féministes. Je trouve que c'est très important de donner ces valeurs-là aux petites filles. Et cette démarche d'avoir écrit ce manifeste pour une éducation féministe, je la trouve hyper nourrissante, hyper galvanisante, en fait.
Alors, on va écouter une chanson d'Anne Sylvestre que vous aimez beaucoup,
super,
je crois,
hein,
parce que vous l'avez chantée, hein, Jeanne Chéral. C'est « Les gens qui doutent ».
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur crie merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Jeanne Chéral, qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson de Dan Sylvestre, Les gens qui doutent?
Bah, c'est une chanson sur les losers, il n'y a rien de plus beau. Enfin, ouais, c'est vraiment ce qui me donne envie d'écrire aussi. Hein. On a rarement envie d'écrire sur les winners. Et puis la voix d'Anne Sylvestre, son ton inimitable, sa manière d'écrire, c'est une femme très très importante.
Sur la pochette de votre album, votre nouvel album, L'An 40, donc c'est votre sixième album, Jeanne Chéral, vous apparaissez vraiment sans artifice, vous n'êtes pas maquillée, vous avez une petite queue de cheval, vous êtes en débardeur noir, le bras droit relevé qui laisse apparaître votre aisselle qui n'est pas épilée, vous êtes sereine, vous êtes à la fois protégée par votre avant-bras, je trouve, sur votre front, qui vous protège un peu, et en même temps vous êtes complètement offerte, comme ça, dans ce que vous êtes complètement naturelle, avec la nuque qui est inondée de soleil, en extérieur, dans une lumière douce. C'est une photo qui raconte vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette photo, Jeanne Chéral?
Vous en avez très bien parlé. Enfin, elle raconte une forme de liberté, je crois. De liberté de ne pas être nickel, de ne pas être apprêtée. Je me suis sentie comme ça en enregistrant mon disque, dans la manière dont j'ai envisagé mon piano. Enfin, il y a des pains que j'ai gardés sur les chansons, des petites erreurs comme ça, pianistiques, que j'ai voulu garder. Ma voix qui n'est pas toujours hyper juste et tout, mais... Je voulais qu'à l'image, on ressente ça aussi. On ressente, voilà, une femme de 40 ans, elle a ses points forts, ses points faibles, sa liberté.
Et c'est ce qu'on ressent en effet. Alors, appeler votre album L'An 40, c'est une façon aussi de célébrer le fait de mûrir, j'imagine.
Ah ouais, complètement. J'ai eu 40 ans en fait l'année dernière, en 2018. Donc là j'ai 41. Mais j'ai adoré cette année. Pour moi, ça a été une année de grâce parce que c'est l'année où j'ai écrit mon disque. Je suis partie écrire ce disque une semaine par mois. Je m'isolais comme ça pour écrire. Et j'ai ressenti une j'irai pas jusqu'à la sérénité parce que la sérénité c'est quand même un état. Enfin, je pense que je suis encore trop jeune pour le connaître. Mais j'ai ressenti un équilibre en fait en ayant 40 ans. Enfin, j'avais l'impression d'être un bon point entre des choses que j'avais déjà faites dont j'étais contente ou moins contente d'ailleurs, mais voilà, un vécu et puis encore plein de choses à faire, à découvrir. C'est hyper cool comme âge. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça et j'avais envie de le célébrer et de célébrer cet âge, en tout cas pour les femmes. Je trouve que c'est un âge merveilleux.
Pourquoi vous avez eu l'envie, le désir de partir comme ça une semaine, vous dites, pour chaque chanson? Vous êtes allé dans plein d'endroits, vous êtes allé en Bretagne, vous êtes allé à La Réunion, vous êtes allé dans le Sud. Pourquoi c'est comme ces moments de résidence pour écrire?
C'est un truc que j'ai toujours fait, mais peut-être avec moins de discipline de calendrier. Il se trouve que j'ai une vie de famille un peu
c'est
plus...
C'est ça, parce que c'est le premier album en fait que vous écrivez en étant mère.
Ouais, c'est vrai. Voilà,
donc
c'est
ça nécessite une certaine organisation.
Exactement,
aussi.
Une organisation. Et j'ai adoré en fait cette autodiscipline et le fait de me dire je pars une semaine, je m'isole. Enfin, c'était souvent dans des endroits très retirés où j'étais seule, quoi, une solitude volontaire et aimée. Et rechercher. Et j'étais vraiment une semaine concentrée sur ce que j'avais à faire. Et quand je rentrais, je retrouvais, j'étais concentrée sur ce que j'avais à faire à Paris, quoi. Enfin, chez moi, en tant que
mère.
Que mère.
Alors, vous parlez aussi, je trouve, dans cet album, d'une audace nouvelle et puis d'une sensualité nouvelle qui apparaît. Vous parlez de vos hanches qui roulent, d'une sensualité que vous découvrez qui est propre à un certain âge et que vous ne soupçonniez pas forcément quand vous étiez plus jeune.
C'est marrant d'ailleurs parce que les hanches qui roulent, facile, naturel, c'est dans la chanson L'an 40 oui. et c'est précisément un texte où j'ai pas utilisé la première personne du singulier. Enfin, je pense que si j'avais dit je, j'aurais peut-être été moins loin. Enfin, j'aurais moins osé dire je suis vraiment super contente d'avoir 40 ans. Enfin, je l'aurais pas fait comme ça, quoi. Ouais. Mais le fait de d'utiliser le elle, ça permet de dire plein de choses, de dire des choses positives sans avoir l'impression de tomber dans la mièvrerie ou l'auto-célébration. C'est pratique.
Et après, par contre, vous arrivez à partir de la deuxième chanson à la première personne.
Ouais, quand même. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même très autobiographique.
On parle de ça, absolument. Oui. On va écouter une écrivaine qui vous est chère sur la difficulté de trouver la justesse de la forme. C'est Annie Arnaud.
Je me situe en dehors de genre littéraire. Ça n'est pas mon souci. Mon souci premier, c'est de trouver une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issu de ma vie, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé, tout simplement, de mon enfance, du monde autour de moi jusqu'à maintenant, et qui continue évidemment de m'entourer, et de trouver une forme pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une forme ? Eh bien, c'est très difficile de l'expliquer, mais c'est justement en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient vraiment à ce que je ressens et qui va se devenir une sorte de boule, qui fait boule de neige en moi au cours des années. Et il m'arrive de laisser en jachère très longtemps un texte commencé parce que je ne sens pas que la forme convient.
Ça me touche de l'entendre comme ça.
C'était en 2014.
Ah ouais. J'adore. Enfin, je trouve que c'est le plus grand écrivain vivant. Enfin, vraiment. Hein, j'ai tout lu d'elle. C'est vraiment l'écrivaine que je préfère.
Est-ce que vous avez quelque chose en commun, me semble-t-il, c'est le fait d'être pétri vraiment par vos origines, par vos racines, par votre enfance, voilà, de vraiment faire, enfin, de œuvrer avec tout ça, avec tout ce qui vous constitue. Ne jamais se dérober, en tout cas.
Enfin, peut-être. En tout cas, chez Annie Arnaud, c'est prégnant. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de toute son œuvre, quoi, son enfance à Yvetot. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment des lieux de pèlerinage, je trouve, presque. Yvetot, Cergy, enfin, quand je vois ça sur des panneaux, j'ai envie d'y aller pour pour m'imprégner de l'ambiance. Mais effectivement, hein, les racines, l'enfance, enfin, c'est ce qui nous constitue. Nul ne guérit de son enfance, hein, comme le chantait Barbara.
Et il y a une chanson qui est particulièrement frappante, je trouve, qui est La Fosse Parisienne, où vous jouez avec ça à la fois dans les mots et à la fois dans la musique. Parce que donc c'est une chanson où vous parlez de votre enfance, où vous dites que vous avez encore de la boue aux genoux quand vous êtes à Paris, que c'est pas évident de trouver sa place dans les fêtes, dans tout ça, que vous avez l'impression que vous jouez un petit peu quelque part
J'ai l'impression d'être toujours un peu en décalage.
Voilà, en
de
décalage.
Pas vraiment, de pas avoir, j'ai pas la bonne dégaine, j'ai jamais la bonne dégaine.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est musicalement ce que vous faites de ça. Je trouve qu'il y a un côté, enfin, avec cette flûte qui est un peu sauvage dans cette chanson, il y a un côté presque indienne à Paris qui débarque.
Ah ouais?
Je trouve. Enfin, il y a une sauvagerie qui est différente. Il n'y a pas de flûte dans les autres chansons, je crois.
Non, c'est le seul solo de flûte, un peu sauvage, effectivement. Je le voulais comme ça, en tout cas, je l'ai écrit comme ça. Ouais. Je voulais qu'il soit joué à la note près. C'est marrant, hein. c'est un peu mon côté psychorigide. Je voulais vraiment entendre précisément les notes comme ça.
Ces notes qui racontent quelque chose aussi de votre enfance.
Oui, sûrement. Ouais, de toute façon, des vrais vrais Parisiens, il y en a quand même. Enfin, on le dit souvent, hein, il y en a assez peu. Enfin, on est toujours Parisien d'adoption. Mais ouais, je me sens. Enfin, cette expression fausse parisienne, c'était pour dire que voilà, ça, malgré les 15 ou 16 années que j'ai passé à Paris, là, je me sens toujours pas vraiment vraiment ancrée. Et alors que j'adore ma ville, hein, je me sens quand même parisienne, mais en même temps, je vois bien que je suis pas tout à fait dans les clous. Mais c'est quelque chose. À 41 ans, on le revendique, ça. C'est plus un problème.
Alors quand vous dites, quand Annie Arnaud dit trouver la forme juste, la difficulté de trouver la forme juste, est-ce que pour vous, la chanson, les mots, le texte, la forme comme ça, ce médium de la chanson, c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour vous exprimer artistiquement?
Ça l'a été le jour où j'ai écrit ma première chanson, en fait. Je devais avoir 19 ou 20 ans. Et j'ai vraiment senti une espèce de familiarité, ouais, comme une évidence. Je me suis dit, c'est ça qui va me convenir. J'avais essayé plusieurs formes artistiques. Enfin, j'ai fait beaucoup de danse, par exemple.
Oui, vous avez commencé en fait par faire beaucoup de, ouais, de danse. Et vous avez eu des jeune. Problèmes, c'est ça, de physique, enfin pas.
Ouais, j'étais pas très douée non plus. Hein, faut pas se voiler la face.
Oui, c'est pas une fracture qui a brisé votre carrière
pour être
de danseuse.
Danseuse, il faut être virtuose, il faut être merveilleuse. Enfin, il faut être vraiment génial pour être chanteuse. Moins, il faut être soi-même. Je pense, c'est la différence.
Vous avez, Jeanne Chéral, une façon très particulière, je trouve, de vous raconter dans vos chansons, qui est un mélange de pudeur, de grande délicatesse, et en même temps, pas de trivialité, mais de crudité, de quelque chose de très concret. Est-ce que c'est une chose que vous recherchez, que vous revendiquez, ou c'est vraiment naturellement que ça vient comme ça ?
Comment savoir ?
Oui.
Bah non, si je me pose la question, c'est que je le recherche pas. Enfin, ça vient comme ça. Hein. C'est sûr que, en fait, je me pose jamais la question de savoir si je suis trop crue ou si je suis trop ou si c'est trop érotique ma façon d'écrire. C'est jamais ça qui me pose problème en fait. J'ai plus de problèmes par rapport à en me disant oh non mais là c'est mièvre. Enfin, j'ai plus c'est plus ça
dans l'exigence plus que dans les sujets ou
pour moi il y a aucun sujet tabou. Tout peut devenir une chanson. Enfin c'est l'avantage. Enfin, je trouve que la chanson c'est un médium, c'est un média, je sais pas comment dire, mais où on peut parler vraiment de tout quoi. Et je me suis jamais gênée pour parler de tout et de n'importe quoi des fois d'ailleurs.
Alors pour cet album, vous dites que vous aviez près de vous l'album de Fiona Apple, When the Palm, qui
son deuxième album.
Voilà son deuxième album. Vous avez même joué avec deux de ses batteurs, je crois.
Oh là là, quelle chance. C'était un fantasme.
Jim Kettner et Matt Chamberlain.
Et Matt Chamberlain. Voilà, c'était un fantasme. Mais il faut pas réaliser ses fantasmes, mais il se trouve que celui-là, je l'ai réalisé. Voilà, je suis allée à eux. Ils vivent à Los Angeles et j'ai été enregistrer en grande partie mon album là-bas. Parce que j'avais envie de leur groove, de leur son, de leur virtuosité. C'est deux batteurs très très différents. Jim Keltner, il a 76 ans et il a beaucoup joué avec Lennon, avec Neil Young. Enfin, c'est une légende quoi. Voilà, il a un jeu, il est très très au fond du temps. Et Matt Chamberlain, c'est un peu l'inverse. Il est hyper hyper créatif. Il voit tout de suite nerveux, où il faut aller, plus nerveux, plus il joue partout quoi. Il va dans tous les sens et c'est virtuose.
Et pourquoi vous aviez Fiona Apple près de vous?
Alors ce disque When the Pound, il est sorti en 99, donc il y a 20 ans. Et c'est un album que j'ai toujours beaucoup écouté. Enfin, j'y reviens régulièrement. Et là, pendant l'écriture de mon disque, en fait, je l'écoutais vachement. J'écoutais beaucoup le son qu'il a, les claviers, les cuivres. Enfin, ça, je pense que j'ai été imprégnée, quoi.
Imprégnée parce que il y a et chez Fiona Apple et chez vous à la fois une grande précision dans les arrangements. Vraiment une recherche de sonorités extrêmement précises, extrêmement choisies pour chaque chanson et qui bouge. C'est extrêmement varié en fonction des chansons. Mais d'ailleurs, on va écouter votre chanson, on va écouter L'an 40, Jeanne Chéral.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressant? Ces hanches qui roulent, facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'an 40. Elle est un peu cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec quelques années, quelques séquelles. Quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner.
L'an 40, par vous, Jeanne Chéral, c'est le premier extrait de votre album L'an 40 qui paraîtra le 20 septembre prochain. Merci d'être avec nous sur France Inter. Alors, c'est un album où vous citez aussi d'autres musiciens. On parlait de Fiona Apple. Il y a Steve Reich aussi qui est assez présent, notamment précisément dans une chanson qui est 69.
Ouais. Là, où j'ai superposé plusieurs pianos. Enfin, c'est vrai que c'est une école que j'aime beaucoup. Hein,
minimaliste américain.
Voilà, la musique sérielle. Oui. Et bon, après, j'ai fait ça à ma manière. Hein, c'est en dilettante, mais j'adore ça.
Mais alors, ce qu'on sent aussi dans cet album et dans la plupart de vos albums d'ailleurs, Jeanne Chéral, c'est que vous êtes très inspirée par un nombre d'artistes. Vous aviez rendu hommage à Véronique Sanson, vous avez rendu hommage à Barbara aussi. Ouais. Vous avez, il y a plein d'artistes qui sont proches de vous. Mais comment dire, ça ne fait jamais citation en fait, ce que les artistes sont avec vous comme des révélateurs. En fait, on a l'impression qu'ils vous donnent une forme d'énergie pour que vous en puisiez en vous une nouvelle. Ah, est-ce que c'est ça qui se passe ou
ça me parle. C'est ouais. Hyper, c'est très juste. Je trouve que ce que vous dites. J'ai l'impression, ouais, d'être traversée par une constellation et puis d'être un peu, ouais, une éponge, mais de m'imprégner de.
Pour en faire quelque chose qui est totalement vôtre et totalement personnel.
J'espère, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mais donc, ça me fait très plaisir.
Il y a une chanson aussi, il faut qu'on en parle, de cette chanson qui s'appelle Adieu, l'adieu. Un adieu en hommage à Jacques Higelin.
Oui, c'est une chanson qui raconte en fait sa cérémonie d'adieu qui avait été orchestrée par ses trois enfants, Isia, Ken et Arthur, au Cirque d'Hiver en avril 2018. Et tous les gens qui étaient présents ont été complètement transportés par ce moment. Et j'ai pas pu faire autrement que d'écrire
une chanson. Ouais, donc c'est encore ça qui se met en place. À mon sens, c'est comme une triangularité entre l'artiste, la façon dont vous le percevez, et ensuite ce qui jaillit de ce que vous ressentez à vous.
C'est ma petite cuisine intérieure. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a souvent un temps d'incubation avant que ça devienne une chanson. Des fois, c'est plusieurs années. Hein. Mmh. Mais là, ça a été assez immédiat pour les obsèques de Jacques Higelin.
J'aimerais qu'on écoute une femme que vous aimez aussi beaucoup, Jeanne Chéral. C'est Barbara qui parle du métier de chanteuse.
Je pense que vous avez bénéficier, entre guillemets, si j'ose dire, du fait qu'il y a assez peu de femmes auteurs-compositeurs et que c'est déjà en soi un événement et c'est aussi d'une certaine façon la preuve d'une certaine personnalité.
On en revient à moi, revenons-en à vous.
Mais non, mais parce que ça m'intéresse.
Non, c'est vrai et pas tellement. Par exemple, il y a eu des femmes, il y a eu, par exemple, Anne Sylvestre, autre chose, mais elle a écrit des chansons merveilleuses qui pour moi sont vraiment des chansons. C'est vraiment la poésie, c'est vraiment écrit, c'est fantastique. C'est quand même une femme qui écrit. Il y a eu comme une femme qui chantait pas mais qui écrivait des chansons merveilleuses, c'est Madame Monod. Effectivement, il n'y a pas tellement de femmes qui écrivent des chansons. Et pourtant, c'est davantage un métier de femme. Enfin, moi, je trouve que très rares sont les hommes qui sont sur une scène, je parle pour qui s'entend pour moi, et qui ne sont pas dévirilisés. Très rares. Alors, pas citer de nom, parce que ce serait... Mais il faut vraiment que ce soit très, très, très remarquable pour qu'un homme monte sur scène. Alors que d'une femme, on peut accepter beaucoup de choses. Parce qu'une femme charmante, jolie, qui a un charme, qui a fait remarquer le talent, c'est ça aussi, c'est le charme. Je ne sais pas, pour moi, c'est toujours été un métier de femme. Encore bien que ce métier de femme, il faut le faire comme un homme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il faut une rigueur, une discipline, il faut décider, il faut... Pour moi, c'est un métier d'homme. Si vous voulez, c'est un métier de femme qu'il faut faire comme un homme.
Il ne m'appelle pas madame, mais homme. Mais gravement, il me nomme patronne.
C'était donc Barbara en 1970 au micro d'Émile Noël. C'est fou ce qu'elle dit, non, Jeanne Chéral?
C'est incroyable, ouais.
Est-ce que aujourd'hui,
quand elle dit déviriliser un homme,
ouais, et puis quand elle dit c'est un métier de femme qu'il faut faire comme un homme, est-ce qu'aujourd'hui, donc plus de 50 ans plus tard, est-ce que ça a un sens, ces mots?
Oh là là, vaste débat.
Oui, vaste débat.
Bah, ça résonne quand même, hein.
Oui.
C'est L'intervieweur commence par lui dire quand même c'est un privilège quand même hein, d'être une femme. Vous bénéficiez quand même du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Enfin, j'ai toujours trouvé voilà la petite faille. C'est un métier comme beaucoup de métiers où il faut faire un petit peu plus, je pense.
Encore aujourd'hui.
Enfin récemment il y a eu une tribune
absolument
qui a été signée
que vous avez signée.
Bah ouais.
1200 femmes des métiers de la musique.
Pour lutter contre le sexisme dont notre milieu n'est pas épargné.
C'est le moment de notre...
Oula.
Pardon, c'est moi qui lance mal le gong du portrait chinois. Parce qu'en fait, voilà, on a l'habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Donc là, le gong est parti par ma faute. Est-ce que vous voulez bien, Jeanne Chéral, vous prêter à l'exercice?
Jamais. Mais
non,
si, bien sûr,
ah bon,
bien sûr. Je plaisante.
Si vous étiez un mot, Jeanne Chéral.
Femme.
Pour vous, quel est le meilleur moment pour composer, pour écrire de la journée?
La fin d'après-midi, maintenant.
Si vous étiez une héroïne de littérature.
La chef de Marie Ndiaye.
Pouvez-vous imaginer un monde de femmes?
Sans hommes? Oh non.
Quel espoir avez-vous abandonné, Jeanne Chéral?
Aucun, je crois.
Craignez-vous davantage le jugement d'un ami ou le jugement du public?
Le jugement d'un ami, je pense.
Contre quoi n'avez-vous pas d'assurance?
Contre la méchanceté gratuite, peut-être. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais c'est la réponse qui me vient.
La chanson que vous écoutez en cachette.
Aucune.
Vous assumez.
J'assume tout ce que j'écoute.
De quoi êtes-vous reconnaissante, Jeanne Chéral?
Reconnaissante. De l'amour. L'amour qui est la chose la plus importante au monde, je pense.
Quelle est votre devise favorite?
Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi.
C'est une phrase de Cocteau. Merci beaucoup. L'été.
Sur France Inter.
Merci beaucoup, Jeanne Chéral, d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Je rappelle que votre album L'An 40 paraîtra le 20 septembre prochain. Vous restez encore un petit peu avec nous pour le Journal de la Culture?
Avec plaisir.
Encore une seconde. Voilà, ce sont des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
Il paraît que pour lire, il suffit d'ouvrir un bouquin et puis de se mettre le nez dedans.
Aujourd'hui débute la 28e édition du Festival des Lectures sous l'Arbre entre la Haute-Loire et l'Ardèche sur le plateau du Vivarais, Lignon, jusqu'au 24 août. Le principe, une lecture où un lecteur dit et partage à haute voix un texte avec le public. 5 jours où poésie et littérature se mêlent à des expositions, des spectacles et des stages ouverts à tous. Pour cette saison, l'artiste peintre hongrois István Pétó est mis à l'honneur, ainsi que les éditions Zulma et la Corée. Et pour couronner le tout, les plus chanceux pourront participer à un atelier de traduction d'Hamlet de Shakespeare avec...
Vous voulez que je prenne la suite?
Avec André Markovitch, le grand traducteur de Dostoïevski, Pushkin et tant d'autres. À vos livres.
C'est pas quelqu'un qui rejoint l'impressionnisme, c'est quelqu'un qui contribue à le fonder, à la fois esthétiquement et à la fois qui en est une des protagonistes historiques, si je puis dire.
Pour la première fois, le musée d'Orsay consacre une rétrospective à l'artiste Berthe Morisot. Muse d'Edouard Manet, elle est la première femme à avoir exposé avec les impressionnistes, où était d'ailleurs à ce moment-là, elle était plus reconnue que Monet, Degas ou encore Renoir, mais comme souvent, l'historiographie l'a négligée. Artiste émancipée et libre, Berthe Morisot disait « Je ne crois pas qu'il y ait eu un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je le vaux. » À contre-courant de son époque, ses peintures racontent des histoires, ses décors sont toujours joyeux, remplis de jardins en fleurs, et les caractères de ses personnages souvent mystérieux. Pour elle, la peinture a le rôle de fixer quelque chose de ce qui se passe. Son génie est aujourd'hui moins connu, mais se doit de l'être. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour contempler ou recontempler ses œuvres au musée d'Orsay. Grand
grand rendez-vous de la musique baroque, le festival de Sablé-sur-Sarthe, débute aujourd'hui et dure jusqu'au 25 août. Il initie la redécouverte de la musique sur instruments d'époque avec l'Académie baroque internationale. Et pour cette saison, le Nouveau Monde est célébré, de la Nouvelle-Espagne au Pérou, en passant par l'Amazonie. L'Amérique latine des 17e et 18e siècles sera donc mise à l'honneur pour cette 41e édition. Avec de grandes formations comme la Quimera Splendor mexicaine d'Eduardo Egues, par exemple, certains villages de la Sarthe et de la Mayenne feront résonner leurs orgues et la création française des Vêpres de la Vierge de Chiara Margherita Cozzolani, compositrice milanaise et religieuse, grande figure du Seicento italien, sera présentée par le jeune ensemble du ténor Emiliano González Toro y Gemelli. Une première française pour le festival de Sablé-sur-Sarthe où l'on retrouvera aussi de grands noms comme Nathalie Stutzmann qu'on écoute.
France Inter. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Jeanne Chéral, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent parmi ces propositions culturelles?
Je suis toujours assez curieuse de tout, moi, en général. Mais pas rien. Enfin, voilà, Berthe Morisot, pourquoi pas, vous connaissez
Berthe Morisot, ouais. Enfin, c'est, ça m'a touchée ce que vous, enfin, sa phrase. Moi, j'attendais rien d'autre qu'un homme me traite d'égal à égal. Enfin, ça me parle beaucoup. Et, j'ai très envie de voir cette expo.
Est-ce que vous avez le souvenir, Jeanne Chéral, de votre première grande émotion culturelle?
Oh là là, non.
Non.
Peut-être littéraire. Je me souviens d'avoir lu Roald Dahl quand j'étais toute petite. Et c'est une émotion à la fois c'était haletant et en même temps j'avais l'impression de rentrer dans quelque chose d'artistique en le lisant.
Merci beaucoup Jeanne Chéral. On vous laisse filer parce que vous avez un train et nous on va filer vers le sud à Avignon avec l'artiste Ernest Pignon-Ernest que nous avons rencontré pour son exposition Ecce Homo à la chapelle du Palais des Papes. Bonjour Ernest Pignon-Ernest.
Bonjour.
Donc nous sommes à Avignon, dans la grande chapelle du Palais des Papes, où vous est consacrée une grande exposition avec, il y a plus de 400 œuvres, il y a des collages, il y a des dessins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des esquisses, énormément d'œuvres qui sont rassemblées ici. C'est une exposition qui va courir jusqu'au 29 février 2020. Donc les gens ont vraiment le temps de venir vous voir. Et c'est une exposition qui s'appelle Ecce Homo, qui commence en 1966. Donc on va suivre un petit peu le parcours de l'exposition avec une première photo qui est celle d'une photo d'Hiroshima.
Qui est une référence à Hiroshima. En fait, à cette époque-là, en 1966, je m'installe dans le Vaucluse avec une idée un peu mythique du Vaucluse, un peu comme si c'était la Toscane, vous voyez, René Char, Pétrarque, Dante, enfin voilà. Je loue un atelier et j'apprends qu'à quelques kilomètres s'installe la force de frappe atomique. 1000 fois Hiroshima. Mmh.
Sur le plateau d'Albion.
Cette idée qu'il y a cette puissance de mort enquistée sous des champs de lavande, carrément. Donc je pense que je vais peindre sur ce thème-là. Et puis au bout de quelques mois, je me rends compte que je n'arrive pas, qu'il y a des choses que je ne peux pas figurer. Avec ces 17 silos nucléaires installés là, sous les amandiers, c'est le paysage lui-même qui est pris comme un otage et qu'on ne peut pas le représenter, mais qu'il faut intervenir directement dessus. Voilà, comme stigmatiser les lieux eux-mêmes. Et moi, je réunis toujours beaucoup de documents. Je découvre cette photo que la plupart des gens qui vont nous écouter ont déjà vue. C'est une photo qui a été prise sur un mur d'Hiroshima le lendemain de l'explosion. Un homme a été décomposé par la bombe. Il ne reste plus que de lui son ombre portée. Voilà, le mur est brûlé par l'éclair nucléaire. Il y a cette forme noire, comme ça, comme un fantôme. Et je considère, je me saisis de cette image comme symbolique de ce moment, de l'arrivée dans le monde du nucléaire. Et j'en fais un pochoir et je vais imprimer sur les routes qui mènent vers le plateau d'Albion cette espèce de fantôme d'alerte noire inquiétante, quoi. Vous voyez,
et c'est aussi une photo qui symbolise, vous, votre entrée, en matière, votre acte artistique de résistance.
C'est la première fois que j'interviens sur le paysage avec une forme humaine, sans savoir à ce moment-là que ce sera la base de mon travail. Et je trouve là-dedans une espèce d'équilibre, cette façon d'appréhender le réel en le travaillant, quoi. Vous voyez, en glissant un élément dedans qui vient en quelque sorte le révéler. Voilà. Et c'est un tournant, là. Au fond, tout mon travail démarre avec ça, parce que c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le nucléaire, c'est l'homme peut annihiler la vie, quoi. Vous voyez, donc, au fond, je voudrais que mes images soient perçues comme des empreintes. Je souhaite que mes images apparaissent comme des présences dans les rues. Donc il y a une espèce de rencontre physique, presque sensuelle.
Mais en même temps,
j'affirme que c'est une image. Mmh. Au théâtre, on dirait une distance, quoi. Voilà. Et du coup, dans mes dessins, il y a ce côté grandeur nature qui va dans le sens d'un effet réel. Et le noir et blanc qui affirme la fiction. Et il faudrait que mes images soient perçues comme si elles étaient des empreintes. Parce que dans l'idée de l'empreinte, il y a cette dimension dialectique. Veut dire qu'il y a eu une personne et qu'elle n'y est plus. C'est comme dans des pas dans le sable, quoi. Vous voyez, l'image dit à la fois la présence et l'absence, quoi. Voilà.
Alors, vous êtes allé ensuite dans les années 80 et 90 beaucoup à Naples.
Oui.
C'est une ville qui vous a beaucoup inspiré. Naples, on va aller un petit peu vers
Naples. C'était pour moi une façon d'interroger ce qui fonde ma culture. Travaillant sur l'image. Je ressentais, n'ayant pas de formation religieuse, je sentais un manque. C'est une grande chance pour un peintre d'être né dans la sphère catholique, parce que ce dogme de l'incarnation, c'est un cadeau pour un peintre, même s'il n'est pas croyant, vous voyez, je veux dire. Je suis allé à Naples à cause de la musique. Je voyais qu'il me manquait cette culture religieuse qui fonde notre culture, surtout quand on est peintre. Et je me demandais où j'allais mener ce travail. Et un jour, à France Musique, j'entends Philippe Hersant, oui, qui fait une émission magnifique sur la musique napolitaine. Et là, dans la même émission, j'entends Pergolèse, Cimarosa, et puis Gesualdo. Et ça m'a... Comme je suis un peu déficient musicalement, je me suis même demandé si ce n'était pas une musique contemporaine très sophistiquée. Vous savez, je n'avais pas de repère. Et au milieu de cette musique très riche, très sophistiquée, il passe Sole Mio. Vous voyez, une chanson populaire magnifique.
Napolitaine.
Ouais. Et vraiment, je me suis dit, une ville qui a sécrété cette richesse à la fois Gesualdo et Sole Mio, c'est sûrement très intéressant. Je suis parti à Naples sur ça. Vous voyez, sur cette émission de Philippe Hersant, je ne sais pas s'il le sait, et j'ai travaillé des années uniquement parce que ça a déclenché. Voilà. Lasciate mie zio mare, nasce Carola, Miguel e Mago, ma storia è sta città, io te la voglio raccontare senza bucia ma verità. Assai bella Miguel e ma, sulla bellezza può davantare, funiculì e funiculà, ma che bellezza si può campare, voglio sempre da ciuscià.
Et voilà. Donc à Naples, vous avez travaillé aussi sur un tableau qui est très important, qui est David et Goliath du Caravage.
Oui, c'est-à-dire que peu à peu, travaillant sur Naples, il y a des thèmes qui s'imposent à Naples. Tous les gens qui vont à Naples sentent ça. C'est d'abord à cause du Vésuve, cette présence de la mort, cette menace permanente qui a du danger. Oui, cette épée de Damoclès, cette référence à Pompéi, la ville ensevelie. Et donc il y a cette présence de la mort. Très, très, très forte, cette sensualité de la ville, ouais, les draps aux fenêtres, les poissons, les gens dans la rue,
les
gens qui se côtoient. Et puis, on sent cette menace. Vous savez, à Naples, on sent que le sacré, il vient pas d'en haut, qu'il vient de sous la terre, quoi. Voilà. Dans l'Énéide, déjà, Virgile met l'enfer sous la terre. Et donc, il y a ça qui s'est imposé, cette propension de cette ville à sécréter des images de la mort. Pour des différentes raisons, dans les mythologies grecques, romaines, chrétiennes, quoi. Vous voyez, c'est une permanence. Donc j'essayais d'interroger tout ça. Au fond, je ne fais qu'interroger l'homme et donc cette relation à la mort. Voilà.
Et vous réinterprétez quand même le tableau donc, du Caravage.
Oui, mais là c'est parce que c'est le premier tableau que je colle. C'est une citation. L'idée de
est-ce
je
que
fais
vous
pas toujours des citations,
ce
on peut s'approcher.
Oui.
Oui, oui. En fait, ce tableau, Il est doublement intéressant parce que Caravage est de retour à Naples. Vous savez, il avait tué un peintre. Il a dû s'échapper à Syracuse, à Malte et tout. Il attend le pardon du pape. Et il est en pleine période de pénitence. Et il se représente lui-même la tête tranchée. C'est-à-dire que c'est lui, il fait son autoportrait en Goliath. Voilà. La tête tranchée, on sait que c'est son autoportrait. Et dans l'autre main, symboliquement, j'ai mis le portrait de Pasolini, et c'est un peu comme si je mets sous tout le travail que je vais développer à Naples, sous le parrainage de ces deux grands artistes qui ont beaucoup de choses en commun, notamment le fait qu'ils sont morts tous les deux de façon très ambiguë sur des plages près de Rome, entre Rome et Naples, et surtout cette façon d'avoir su traiter les grands rites sacrés, non plus comme des choses héroïques et exceptionnelles, mais comme des choses vécues par les gens de la rue. les modèles que prend Caravage. On sait la mort de la Vierge que je cite, il paraît que c'est une prostituée noyée qui a servi de modèle. Et pour Pasolini, les petits voyous de Rome et tout ça. Quoi, voilà. Il y a tout le temps chez Pasolini l'histoire et l'histoire de l'art qui résonnent. Voilà, et j'espère que mon travail fait la même chose. Pour moi, c'est une référence. Donc, c'est la première image que je colle et qui affirme peu à peu ce dialogue avec la peinture caravagesque, vous voyez, qui est dans laquelle il y a cette lutte. Parce que Naples est la plus grande ville d'Europe au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il y a des immeubles de 25 mètres de haut. Ces grandes maisons, ces rues étroites font immédiatement penser à l'univers de la peinture de Caravage. Cette lutte entre les ténèbres et le soleil. Parce que c'est la ville la plus ensoleillée et la plus sombre. Et il y a cette idée tout le temps des ténèbres.
De lutte et de confrontation.
Voilà. Voilà.
Alors, il y a ça, et puis il y a aussi beaucoup dans votre travail, le traitement des sous-sols, des bas-fonds, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est en contrebas.
Là, c'est cette idée qu'il y a sous la ville, l'enfer, la mort. Voilà. Et le désir de s'en sortir, parce qu'à Naples, l'idée des âmes du purgatoire, cette espèce de période intermédiaire, est très intéressante, que j'ai beaucoup travaillé, qui est intéressante plastiquement aussi. Bon, moi, voilà. Mais vous voyez, je travaille beaucoup, je ne travaille pas que sur des choses plastiques. Par exemple, cette image-là que nous avons en face de nous, qui représente un homme qui porte un autre sur son dos, que j'ai pris cette façon de porter le corps dans les grandes peintures après la grande peste du XVIIe siècle. Voilà. Mais voyez, il y a ce corps qui vient, dont la main traîne sur le sol. Donc la main très fragile, qui est imprimée sur un papier très fragile, mais elle vient se poser sur ces grosses dalles noires qui sont là depuis des siècles. Vous voyez, il y a une confrontation de cet ordre. La fragilité de mon image, la fragilité du corps, et puis ce truc presque intemporel du sol, qui est en fait, c'est des dalles faites dans la lave
dans
du
Vésuve.
Voilà. Et ces images, je ne les colle que la nuit du jeudi saint et du vendredi saint, pour les inscrire, pour qu'elles soient découvertes dans ce contexte très fort de la passion et de la résurrection qui est très présent à Naples, sur des parcours qui sont liés au parcours des processions
religieuses
de Pâques, qui étaient déjà des parcours liés à la mort du temps des Romains. Si vous voulez, mon travail consiste à approcher une réalité à la fois d'un point de vue plastique, c'est-à-dire que je regarde les rues, la texture des murs, la lumière et tout ça, tout ce qui se voit, et simultanément, j'étudie tout ce qui ne se voit pas. La mémoire, l'histoire, la force symbolique des lieux. Et mes images, elles naissent de la conjonction de problèmes plastiques, de problèmes symboliques presque. Voilà. Et mes images, je les élabore comme ça. Et leur inscription dans les lieux, en quelque sorte, a pour fonction de révéler le lieu. Vous voyez, de le réactiver, de l'exacerber, son potentiel, de le perturber quelquefois. La présence, d'un coup, les gens passent tous les jours dans des lieux, même quand ils sont chargés d'histoire. Et voilà, et les gens.
Ce que vous dites en préambule aussi de l'exposition, qu'on dit mal entendre, mais on ne dit pas mal regarder,
absolument.
alors qu'on peut perdre le regard.
Voilà.
Et une fois que vous mettez vos images, que vous les collez, elles restent à jamais jusqu'à ce qu'elles disparaissent.
Voilà, oui, en général, oui. C'est du papier, ça reste. À Naples, elles sont restées 10 ans. J'ai dû en coller entre 200 et 300. Je peux vous dire chacune pourquoi elle est là. Il faut quand je dans mes images, il faut que la sensation présente soit inséparable de l'histoire. Vous voyez, il y a cette idée. Au fond, il faudrait que mes images, elles viennent réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Voilà.
C'est ce qu'on voit très concrètement là face de nous, puisqu'on a on a une photo qui est très puissante. C'est au moment où Nice est jumelée avec le Cap.
Oui, voilà. Ben là, c'est l'événement qui fait. Voilà. Je veux dire que quelquefois, on a dit que je faisais des œuvres en situation. J'ai dit non, je fais des œuvres de la situation.
De la situation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire?
Ben là, c'est un jour j'apprends que ma ville va être jumelée avec l'Afrique du Sud, en pleine période de l'apartheid. Les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité dans ces années-là, 74. Et j'apprends que ma ville, dont je suis très fier, je suis très attaché à Nice, donc je trouve ça déshonorant. Très vite, je fabrique cette image qui représente une famille de Noirs derrière des barbelés. J'en tire des centaines. Et là, c'est la seule fois où je ne suis pas seul à coller. J'appelle une vingtaine d'amis niçois. Et sur tout le parcours officiel des fêtes de ce jumelage, je colle. C'est-à-dire que toutes les fêtes officielles s'est passée devant des familles de Noirs derrière des barbelés. Comme j'ai révélé ce que cachait. Le premier ministre d'Afrique du Sud est passé, le théoricien de l'apartheid est passé. Voilà, donc voilà.
Ça a fait un scandale énorme, non ?
Oui, non. Ouais. Oui. Mais ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma vie parce que le président du comité des Nations Unies contre l'apartheid en 75 m'envoie un télégramme de soutien, me remercie. Il vient me rencontrer à Paris et il me dit, vous savez, on a réussi à convaincre les sportifs de ne plus aller en Afrique du Sud, mais les artistes y vont toujours. Et du coup, à ce moment-là, je faisais un livre avec Jacques Derrida, le philosophe. Et je lui en parle et j'étais très ami avec Antonio Saura, le peintre, le frère de Carlos. Et on bâtit l'idée d'un musée des artistes contre l'apartheid. On réunit une centaine d'œuvres assez prestigieuses, hein, Rauschenberg, Liechtenstein, Tapies, voilà. Et on a fait tourner depuis 1980 jusqu'à la fin de l'apartheid, dans 48 pays, cette exposition pour dénoncer le régime sud-africain. Et nous avions écrit « Les œuvres appartiendront au premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud ». Et je suis allé porter tout ça pour 1 milliard de tableaux à Nelson Mandela. Ça fait que j'ai rencontré... L'image qui est là, c'est Mandela qui me l'a dédicacé. Vous voyez, il y a une image de mon collage dédicacée par Mandela.
Ah, je vois. Voilà. 96.
Voilà. Ouais. Ouais.
Il y a aussi un travail qui est très beau sur Haïti.
Qui est en cours. En fait, on le voit beaucoup à la fin de l'exposition. Tout mon travail est nourri de lecture. Voilà, ce sont les poètes qui nourrissent mon travail un peu. Je considère que les poètes incarnent ou leur temps, ou leur pays. Vous voyez, Neruda, le Chili, qu'est-ce qu'on sait du Chili à part Neruda, ouais, vraiment, ils incarnent leur pays. Je prends les poètes comme ça, si vous voulez. Antonin Artaud incarne une violence.
Alors là, on est justement, d'ailleurs, on va décrire un petit peu, on s'avance un petit peu, on voit que les poètes nous regardent.
Enfin, on se trouve face à face. Le premier qui fait qu'on a un peu parlé de Montemoi, c'est cette image de Rimbaud que j'ai faite dans les années 70.
Ce grand panneau de Rimbaud, donc cette image
donc effectivement
très célèbre.
Donc c'est l'image que j'ai collée sur les routes de Charleville à Paris.
Et en face, on a...
Là, il y a Mahmoud Darwish.
Oui.
Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien. Et il me dit, écoute, avec ce que tu fais, tu devrais venir à Ramallah travailler avec moi. Voilà. Et je lui dis, mais quand tu veux, je viens quand tu veux. On décide d'une date et malheureusement, il meurt avant. Et pendant qu'il était dans mon atelier, justement, on vient de parler de Rimbaud, il voit dans le lit, il me dit, c'est toi qui as fait ce Rimbaud ? Il me dit, c'est toi qui as fait ce Rimbaud ? Mais tu sais, il est partout. Je l'ai, moi, à Ramallah, je l'ai. C'est vrai, mon image de Rimbaud est devenue... Elle est dans plus de 150 bouquins.
C'est,
ouais.
C'est fou,
ouais. Et comme il était étonné de ça, comme il était mort en fait, j'espérais élaborer des images avec lui, hein, vraiment. Et puis, il était mort. J'avais déjà réservé un truc là-bas à Ramallah. Je me suis dit, je vais faire pareil pour lui.
Et donc,
j'ai fait un parcours de Ramallah jusqu'à Gaza, dans des lieux, en parlant avec ses amis ou en lisant ses poèmes, dans les lieux où résonne son œuvre. Vous savez, c'est impressionnant. Darwish, c'est incroyable. J'ai collé à Naplouse, dans les rues. Quand je colle, en déroulant mon dessin, que les gens voient apparaître Darwish, les gens s'arrêtent dans la rue, applaudissent, et je collais toujours 2-3 vers d'un poème. Les gens dans la rue continuent le poème. Et tout le monde connaît les poèmes de Darwish dans les rues. Et après, ils m'ont suivi, et chaque fois que je collais un poème, ils disaient le poème en entier. Quoi. C'était bouleversant. Vraiment, j'ai rarement eu une émotion comme ça en collant mes images.
Et on continue donc avec
l'image de Pasolini.
Grande salle, voilà. L'image de Pasolini qui... alors, il y a beaucoup d'images, mais donc il y a cette image très importante de Pasolini qui tient son propre cadavre.
Voilà, en fait. Pasolini, ça a toujours été une référence pour moi, Pasolini. Les écrits corsaires, sa poésie et son cinéma.
Merci beaucoup, Hermès.
Merci à vous.
Merci pour cette magnifique exposition. Je rappelle que l'exposition d'Ernest Pignot-Ernest est chez Homo Cora jusqu'au 29 février 2020 à Avignon et que l'album de Jeanne Chéral, L'An 40, paraîtra le 20 septembre prochain. Cette émission a été préparée par Élodie Royer, Marion Philippe, avec l'aide de Maëlane Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Nicolas Slimani. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour Le Téléphone Sonne. Bonne soirée sur France Inter.